L'évangile d'aujourd'hui fait partie de ceux qui sont bien connus et énormément commentés, puisqu'il nous est parlé aujourd'hui de la rencontre de Jésus avec une femme qu'on lui amène, car elle a été prise, surprise, en flagrant délit d'adultère. Derrière cet événement, c'est toute une réflexion sur la relation de couple, et pas uniquement que chez les chrétiens, c'est dans l'ensemble de l'humanité où la vie de couple est réglementée d'une manière stricte, soit par des lois, soit par des coutumes locales, mais très fortement imprégnées. Quasiment toutes les cultures, la question de l'adultère est très 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 mal vue, elle est condamnée. Et comme là, autant juifs, selon la loi de Moïse, disent les religieux qui amènent cette femme pour piéger Jésus, c'est qu'elle méritait la mort par lapidation. Aujourd'hui encore, dans certaines cultures, on est proche de cela. Il y a donc des siècles et des siècles de remise en cause d'un tel fonctionnement qui est en nous, d'une manière inconsciente mais bien présente. Tout d'abord, on peut déplorer l'injustice de ces hommes religieux qui amènent cette femme, puisque la loi disait bien que l'homme et la femme devaient être lapidés. Si elle a été prise en flagrant délit d'adultère, c'est que lui, il était aussi là. Mais pour la condamnation, ils n'en ont pris qu'une, bien évidemment, la femme. Là aussi, combien dans notre culture, sûrement dans beaucoup de cultures, un homme qui couche avec beaucoup de femmes, c'est vraiment un homme. Une femme qui couche avec plusieurs hommes, bien évidemment, je ne vous dis pas le mot que l'on dit pour la catégoriser. Que d'injustice. Ces hommes qui amènent cette femme, on va dire, n'en ont rien à faire d'elle. Ce qu'ils veulent simplement, c'est piéger Jésus, le mettre à l'épreuve, pour l'éliminer lui. Il est fort étonnant, tout d'abord, de repérer la délicatesse de Jésus. Il sait que l'enjeu est énorme et il a cette délicatesse de se baisser vers le sol. Il garde le silence. Peut-être veut-il laisser ces hommes face à leur propre stupidité. Et comme il continue à être arrogant et haineux, voilà, il a cette phrase extraordinaire, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et de nouveau il s'abaisse, il ne fait pas front. Il laisse les gens face à eux-mêmes. Il ne veut pas faire un combat de coq, que j'ai raison et vous avez tort. Il laisse chacun face à sa propre existence, à sa propre réalité. Quel beau message, quel enseignement extraordinaire nous donne-t-il juste là, juste en s'abaissant, pour nous inviter à regarder comment nous pouvons régler bien des conflits. Une chose qui m'étonne dans notre tradition chrétienne, combien Nous avons insisté pendant des siècles sur cette question de la relation sexuelle, qui se doit être que dans un seul cadre, la relation du mariage, et jamais rien extérieur, parce que c'est la loi, et qui va jusqu'à aller à l'excommunication si d'adultère on passe à divorce et nouvelle vie de couple. Très récemment, en confessant une femme, elle me dit, la dernière fois que je me suis confessé, et ça remontait à loin, j'ai été éjecté du confessionnal par le prêtre parce que j'ai avoué que j'étais divorcé et qu'elle était avec un autre homme. Comment peut-on avoir ce genre d'attitude alors même que le pape nous dit bien, le confessionnal n'est pas un tribunal, mais il est le lieu de la miséricorde. Et Jésus dira bien à cette femme, je ne te juge pas. Combien de blessures, combien de rejets, d'abandons. Comment peut-on oublier cette parole du Christ qui est si essentielle sur sa mission, je ne suis pas venu pour les bien portants. C'est fou ça. Et c'est souvent les bien portants qui veulent exclure Jésus de ceux qui en ont besoin. Je suis venu pour les malades et les pécheurs. Justement, ces personnes qui sont en détresse, ces personnes qui sont blessées de leur propre itinéraire. C'est jamais de gaieté de cœur qu'on fait un divorce, c'est jamais joyeusement qu'on fait un adultère, on sent bien qu'il y a des choses qui vont pas, on sent bien qu'il y a de l'ordre de la... où on se laisse prendre par l'émotion, par le désir, et qu'il y a quelque chose qui va être cassé. Sauf ceux qui sont libertins, sinon toute personne désire vivre la fidélité, c'est une question de dignité vis-à-vis de soi-même. Et que parfois, voilà, la fougue prend le dessus. Je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les malades et les pécheurs. Cette loi qui impose aux divorcés remariés de ne plus s'approcher du Seigneur, comment peut-elle être tenue? Alors que c'est eux qui en ont le plus besoin. J'ai très souvent entendu les plus beaux témoignages sur l'importance de l'Eucharistie, ils me viennent justement des divorcés remariés. Et qui souvent, on peut dire, ben voilà, ceux qui s'approchent de l'Eucharistie, on a l'impression qu'ils viennent chercher une pastille. Excusez-moi l'expression. Ce qui est fort étonnant aussi, c'est que on se crispe sur cette loi, cet enseignement que Jésus donne, de fait vis-à-vis des divorcés. Vous avez été fait pour être unis, et donc ne venez pas casser le projet de Dieu. Donc là-dessus, de fait, il redonne bien la règle, et que c'est l'essentiel, c'est le sommet. Mais pourquoi qu'on est si strict sur cette première loi, et on laisse les autres complètement de côté ? J'en donne quelques-unes, de lois, d'enseignements du Christ. Aimez vos ennemis. Donnez votre manteau à celui qui a froid. Celui qui dit crétin à son frère mérite la géhenne. Alors on devrait carrément interdire toute communion à celui qui n'entend pas l'enseignement du Christ. Qui la met pas en pratique. Et du coup, il n'y en aura aucun qui viendrait communier. Que d'injustice, que de fois il y a deux poids, deux mesures, alors qu'il nous dit qu'il ne doit pas y en avoir. Allons jusqu'à l'extrême, il dit « Soyez parfaits comme votre Père est parfait ». Et ne pourraient communier que ceux qui sont parfaits. Mais il n'y en a aucun. à part Marie. Le Seigneur nous montre l'attitude vis-à-vis de cette femme. Moi non plus, je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Bien évidemment, pécher, c'est-à-dire ne dévie plus de ta route. Regarde l'essentiel de ce qui est pour toi. Je suis heureux quand j'entends des divorcés remariés me dire leur émerveillement de voir des couples fidèles jusqu'au bout, de voir le papy-mamie bras-dessus, cahin-cahin, mais qui ont traversé toute l'existence. Et ils me disent, mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que j'aurais aimé cela. Et ce n'est pas parce que je loupe quelque chose que je dois être complètement radié de toutes les listes. Nous sommes là, bien petits, à tendre à vivre la fidélité. Un jour, un homme avait vraiment de très grands conflits avec sa femme. Il n'en pouvait plus. Et du coup, il va voir son oncle, avec qui il discutait facilement, et lui demande conseil. Et son oncle lui dit, ben voilà, ça marche plus avec ta femme, moi je te dis, force-toi à l'aimer. Alors au départ, le neveu a été un peu désemparé de cette enseigne, de cette proposition, de ce conseil, mais comme il aimait beaucoup son oncle, il l'a quand même réalisé, il l'a fait. Et 40 ans après, il remercie encore son oncle de lui avoir donné ce conseil-là. Combien d'avoir osé aller plus loin avec sa femme, ça l'avait rendu heureux. Car lorsqu'on va voir ailleurs, comme on dit, quand on croit que c'est du neuf, en fin de compte, c'est pas du neuf, c'est de la répétition. C'est le plaisir de la séduction. Est-ce que je suis encore capable de plaire? Est-ce que je peux encore séduire? Est-ce que je suis encore à la hauteur? Et du coup, voilà, on fait repartir la fougue des premiers moments, bah, qui sont toujours agréables, bien évidemment, c'est le temps de la découverte. Mais de la découverte de quelque chose qui a déjà été découvert. L'intérêt de la vie de fidélité, de la vie de couple, c'est... Allons ensemble plus loin. Apprenons à nous découvrir jusqu'au bout. Ça, c'est un grand mystère. Et ô combien il est difficile. Passer toute sa vie, toute son existence avec la même personne, c'est un très très grand défi. Surtout que la vie se rallonge de plus en plus. C'est avancer vers plus d'amour vers l'autre. Un très bel enseignement de vie aussi, c'est ce vieux monsieur qui vient voir tous les jours sa femme à l'EHPAD, qui est complètement Alzheimer, qui ne le reconnaît plus, qui lui parle pas, ou qui parfois le prend pour quelqu'un d'autre, pour un inconnu. Et un infirmier lui dit, mais pourquoi vous venez tous les jours voir cette femme, puisqu'elle vous reconnaît plus? Et cet homme de dire, elle ne me reconnaît plus, mais moi je la reconnais, moi je sais qui elle est, et elle est ma femme. L'intérêt de la vie du couple, c'est prendre soin de l'autre jusqu'au bout. C'est ça le défi. Mais nous n'avons pas à condamner ceux qui, à un moment dans leur vie, n'ont pas pu aller plus loin. Nous avons à les porter. Nous avons à accueillir leurs propres blessures. La question de l'adultère, c'est une question de fidélité. Elle a été infidèle, comme lui, il a été infidèle. Et du coup, c'est pas tant une histoire de deux personnes. Admettons qu'ils soient tous les deux mariés, c'est une histoire de quatre personnes. Alors que notre société va nous pousser à vivre que le plaisir, je m'occupe que de moi, je me fais plaisir, donc c'est plaisant d'aller voir une nouvelle ou un nouveau. La loi du mariage, c'est sois fidèle. C'est-à-dire, prends soin de l'autre, mais aussi des autres. Ne t'intéresse pas qu'à ton plaisir personnel, ouvre ton regard vers l'extérieur. Regarde les conséquences que cela peut apporter. En fin de compte, vivre la fidélité, c'est avoir un regard ample et de regarder les conséquences que cela peut apporter sur les autres. Mais c'est aussi un regard porté sur soi-même, puisque fidélité vient de fidelles, qui veut dire la foi. Je suis quelqu'un de foi, c'est-à-dire quelqu'un digne de confiance. L'autre peut me faire confiance. Je ne vais pas le trahir. J'ai besoin de ne pas être trahi. J'ai à être attentif à ne pas trahir. Il y a tous ces enjeux-là derrière cette question de la femme adultère. Jésus est très exigeant sur ceux qui viennent accuser, qui veulent juger, mais il est d'une très grande délicatesse et une très grande attention pour cette femme qui est en très très mauvaise posture. Il doit ressentir son angoisse d'avoir peur de recevoir une première pierre. Jésus est toujours là pour sauver la vie. Il nous demande, sur ton chemin, qu'est-ce qui porte du fruit? Qu'est-ce qui est signe de vie, de vitalité, de résurrection? En quoi te renouvelles-tu? C'est Isaïe qui a des paroles magnifiques. D'abord, après toutes les épreuves du peuple qui était dans l'esclavage, le Seigneur dit, ne faites plus mémoire des événements passés. Ne songez plus aux choses d'autrefois, c'est-à-dire les choses négatives. Il dit, je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà, ne la voyez-vous pas? Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Est-ce que j'entends que ma vie peut passer par des épreuves, là où il n'y a plus rien, mais que par la grâce du Seigneur, je peux aller plus loin et je peux reprendre vie? Et c'est Saint Paul qui nous dit, j'ai tout perdu. Pour une seule chose, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. Alors, n'hésitons pas à revenir à cette recherche du Christ. Paul va jusqu'à dire, je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ. Et en lui d'être reconnu juste, non pas de la justice venant de la loi de Moïse, mais de celle qui vient de la foi au Christ, la justice venant de Dieu qui est fondée sur la foi. Est-ce que tu crois que le Christ t'aime? Est-ce que tu crois qu'il est mort par amour pour toi? Pour offrir la miséricorde du Père, afin que tu sois en vie, quelles que soient les épreuves que tu passes. Oui, sois fidèle au Christ, aime-le profondément, accroche-toi en lui, et fais que toute ta vie rayonne de cet amour initial qui nous vient de Dieu. Bon chemin de carême. Bon chemin de préparation à la résurrection.